Je lis le deuxième texte ici dans Éphésiens au chapitre 2. Il dit, quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'emprise de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions des volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature voués à la colère comme les autres. Mais Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, au moins de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous adonnions. Oui, Seigneur notre Dieu, éclaire-nous encore par ta parole. Remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous comprenions, Seigneur, ce que tu as à nous apprendre ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La pérennité de l'amour de Dieu envers ses enfants. Je me pose la question, est-ce que nous sommes conscients de la pérennité de l'amour de Dieu? Nous verrons ce matin, frères et sœurs, je ferai un suivi sur l'intervention de l'amour divin dans le salut. L'intervention de l'amour divin dans la marche chrétienne, qu'on disait aussi la marche dans la sanctification. C'est vrai que dans la Bible, Nouvelle Seconde, maintenant, sanctification a été remplacée par consécration. Parce que le terme est approprié, c'est vrai. Il n'y a pas toujours la confusion entre la sanctification, qu'on dit souvent de position, c'est en Jésus-Christ. Nous sommes déjà justifiés, sanctifiés. Mais il y a aussi la sanctification de la vie quotidienne, dont le terme consécration est approprié. Calvin pose cette question à propos de la consécration et de la sanctification. En qui consiste le fondement que nous avons en Christ? A-t-il été le commencement de notre salut afin qu'il nous appartienne de le compléter? Nous a-t-il seulement ouvert le chemin afin que nous le suivions ensuite par nos propres forces? Institution chrétienne, chapitre 3. Nous verrons au troisième point comment marcher dans cet amour divin. Oui, soyons conscients de la pérennité de l'amour divin. C'est vrai, je me suis posé la question pendant cette semaine, est-ce que je ne risque pas de tomber dans une certaine banalité ou simplicité en parlant encore de l'amour de Dieu, en cette longue période de crise sanitaire, de crise sociale dans le monde? Oui, je comptais offrir ce message. Je comptais offrir à une collègue, parce que hier soir, je travaillais et on a, dans les discussions, l'amour de Dieu, elle avait mis un point d'interrogation. Parce qu'il passe par un moment difficile. L'intervention de l'amour de Dieu dans le salut. Ici dans Osée, quand Dieu appelle les enfants d'Israël à travers les prophètes à revenir à lui, ce n'était pas une période de crise, c'était une longue période de prospérité matérielle, une longue période de paix sous le règne de Jéroboam II, qui a duré plus de 40 ans, de paix. Et même pendant cette période, de longue période de prospérité, au lieu de louer le Seigneur, ce que tout le monde devait faire, non, ils se tournaient vers d'autres idoles. Ce que nous avons lu, la sœur nous a lu là, au chapitre 1, verset 1 à 4, chapitre 11. Nous verrons que l'appel, Dieu qui a l'appel vient de Dieu. C'est Dieu qui avait sorti Israël de l'idolâtrie et fait de son peuple, à cause malheureusement de leur désobéissance, qu'ils allèrent en Égypte, en esclavage en Égypte. Mais Dieu, dans son amour, Dieu vit leur souffrance et les sortit de ce long moment d'esclavage pour qu'ils reviennent à lui, pour qu'ils vivent pour lui, qu'ils reconnaissent simplement, lui, leur Seigneur et Sauveur, ce que Dieu demandait aux enfants d'Israël. Sachant que quand Dieu choisit de sauver Israël, de faire de lui son peuple, de lui donner une identité, ce n'était pas à cause de ses capacités intellectuelles, ce n'était pas à cause de sa moralité différente des autres, non. Dieu avait choisi Israël avant la création du monde pour faire de lui son peuple. Il le dit dans Deutéronome, « Tu es mon peuple saint pour le Seigneur, tu es un peuple saint pour le Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois son bien propre parmi tous les peuples de la terre. » Dieu qui avait choisi. Mais nous remarquons que pendant que les prophètes appelaient Israël à s'attacher à son Dieu, Israël se tournait vers les Baals. Il se tournait vers les idoles, les divinités, d'autres divinités. Malheureusement, avec tout son corollaire, des actes immoraux. La Bible dit ici au verset 7, mon peuple est enclin à l'infidélité envers moi. On les appelle en haut, mais aucun d'eux ne s'élève. Comment pourrais-je traiter Éphraïm? Pourrais-je te livrer Israël? Comment pourrais-je te traiter comme Adma? Te rendrais-je semblable à ces bohîmes? Mon cœur est bouleversé. Toute ma pitié s'émeut. Il y a des conséquences de leur désobéissance. Oui, même si Dieu les aime, ils seront amenés à connaître les conséquences de leurs actes. Le peuple Éphraïm avait préféré nouer des alliances avec les peuples étrangers. Le Seigneur le fait comprendre que même si, dans sa grâce, dans son grand amour, il les aime, même si Dieu les aime, même s'il a tenu les conséquences de leurs actes. Mais la Bible nous dit que Dieu nous rappelle que tout acte posé a des conséquences. Oui, à cause de leur désobéissance, Dieu ne cache pas sa colère contre son peuple. Comme ses parents qui sont tristes quand leurs enfants s'éloignent du Seigneur pour suivre le système du Mais Dieu parle ici à ses enfants comme Sodome et Gomorre et punira la désobéissance de ses enfants. Il ne cache pas sa colère contre son peuple à cause de sa désobéissance, de son aveuglement face au péché, de son indifférence face à son amour. Oui, Dieu sera toujours péché. L'amour de Dieu ne peut connaître des limites, il n'en connaît pas. La Bible nous le dit, c'est clair là-dessus. Son amour est illimité, mais il ne saurait passer sur le péché ou prendre le péché à la légère ou le relativiser. Ça peut paraître contradictoire, mais Dieu va renoncer à détruire son peuple afin qu'il marche avec lui, afin qu'il marche dans sa grâce. Oui, l'intervention de l'amour divin dans la marche chrétienne. Le prophète Osée ici va nous montrer, nous montre le cœur de Dieu. Osée chapitre 11, au verset 10, il dit, « Ils suivront le Seigneur qui rugira comme un lion, car il rugira. Les fils accourront de la mer en tremblant, Ils accourront de l'Égypte en tremblant comme un oiseau, de la Syrie comme une colombe. Je les ferai habiter chez eux. Je les ferai habiter. Je montre ici le Seigneur, le cœur de Dieu. Il renonce à détruire son peuple. Il dit, car je suis fidèle. Je ne suis pas un homme, mais Dieu. Oui, l'homme peut faire de belles actions, de belles œuvres, de tout détruire en même temps. L'homme peut changer de comportement envers l'autre parce que juste je fais ça, mais comme il n'y a pas de retour d'ascenseur, l'homme change. L'homme dit, je te pardonne, mais Dieu dit à son peuple, je renonce à te détruire. Je n'agirai pas selon ma colère ardente si je suis Dieu. Fidèle. Dieu est fidèle à son alliance. Oui, même il donne le temps à ses enfants. Il donne du temps à ses enfants de revenir à lui. Il dit, je ne veux pas qu'Israël connaisse le va-et-vient entre l'Égypte et Canaan. Je ne veux pas. Je ne veux pas que les enfants d'Israël connaissent le va-et-vient entre Canaan et la Syrie. Je ne veux pas que cette vie entre le Seigneur et le monde, le Seigneur et le monde, avec toutes ses conséquences, son alliance envers nous, est respecté ici à cause de sa sainteté. Son amour pour nous est incommensurable. Son amour est sans limite. Le psalmiste dit, oui, son amour dure à toujours. Je méditais sur ce chapitre, le psaume 136, je pense que David voulait se convaincre. À chaque parole, il disait, oui, son amour dure à toujours. Oui, son amour dure à toujours. Pour que peut-être lui-même soit convaincu. Il ramène les enfants d'Israël à la maison du Seigneur. Oui, il y a un jugement peut-être à cause de leur idolâtrie, de leur autosuffisance, des alliances avec des nations étrangères, le syncrétisme. On a un peu Dieu, on a un peu dans le monde. Non, il les amène, il les intègre dans la maison paternelle par sa grâce pour qu'ils jouissent pleinement de son amour. L'amour de Dieu ne se repose pas, frères et sœurs, sur nos mérites ou les bontés de l'homme, la raison pour laquelle il ne cesse de suivre le peuple désobéissant. Le message des prophètes de l'Éternel était que Israël, comme les peuples de la nouvelle alliance dans laquelle nous nous trouvons, ne devait pas se faire d'illusions. Que l'Éternel ayant fait sortir du pays d'Égypte pour le conduire à Canaan, sa position de privilégié le mettra à l'abri de tout jugement sévère pour ses péchés. C'est vrai, si aucun parent terrestre n'abandonne son enfant parce qu'il a désobéi, le Seigneur abandonnera-t-il son peuple? Non. Loin du Seigneur, cette pensée. Il attire ici, le verset 4 nous dit, il attire son peuple avec un cordage d'amour. Car Dieu sait que l'amour est plus puissant que la force. Il prend un réel plaisir à recourir à la meilleure solution. À des chaînes. C'est lui, Dieu, par sa parole de prophète. Il dit ici au chapitre 12, verset 4, « C'est moi, par un prophète, le Seigneur fit garder Israël d'Égypte, à Moïse, et par un prophète, Israël fut gardé. » Verbe ici, « garder » veut dire envelopper, protéger, nourrir. Le Seigneur a protégé son peuple dans sa désobéissance. Dans ces moments difficiles, Dieu a toujours protégé, gardé son peuple. Pour le ramener à la maison paternelle. Je pense que nous pouvons comprendre quand le psalmiste dit oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. je reviendrai dans la maison du Seigneur pour la longueur des jours, jusqu'à la fin de mes jours. Soyons conscients, oui frères et sœurs, soyons conscients de la pérennité de l'amour divin dans notre marche chrétienne, dans notre vie de consécration. Soyons conscients. Pour le peuple de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés, la Bible déclare que nous n'étions pas mieux que les enfants d'Israël. Nous étions des morts spirituels, marchant selon le prince de ce monde des ténèbres. Mais à cause de nos péchés, oui, nous suivons aveuglément le monde en rejetant Dieu et ses desseins. Ce que nous voyons dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Mais comment sommes-nous venus à la vie spirituelle? Ici, nous voyons dans Éphésiens, « Mais Dieu est riche de compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce. Dieu nous a élus par sa grâce, par son grand amour, nous a rendus vivants avec le Christ. Nous sommes maintenant liés avec Christ sur le plan spirituel. Nous sommes liés. Mais ce Dieu qui nous a sauvés par grâce, par son grand amour, il nous soutient aussi dans la marche chrétienne par amour. C'est lui qui nous soutient pour que nous tenions bon. C'est vrai que beaucoup de chrétiens évangéliques aujourd'hui croient que nous sommes effectivement justifiés par la grâce, par l'œuvre de Jésus-Christ, mais nous incombe de produire une sanctification. Ça devient des efforts toujours à fournir. La sanctification est devenue une discipline personnelle, naturelle, et non plus surnaturelle. Aujourd'hui, on va mettre l'accent peut-être sur le changement de comportement. Cesser de blasphémer, cesser de faire des excès de table, se lever très tôt le matin pour lire sa Bible, prier. On se culpabilise quand on n'y arrive plus, ces choses. On tombe dans une certaine tyrannie. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça peut-être pour plaire au Seigneur. Oui, c'est vrai, les excès de table, certains actes néfastes sont néfastes, nuisibles pour notre bien, pour notre corps physique. La lecture de la Bible, la méditation, les temps de prière, la communion fraternelle, ce que Dieu a donné, ce ne sont que des balises pour nous aider à marcher. Mettre à marcher dans la vie chrétienne. Ce sont des moyens, comme les théologiens appellent, ce sont des moyens de grâce que Dieu a mis à notre disposition. Bien sûr, la lecture de la Bible, c'est important. La méditation, la Bible, c'est important. Pour nous aider toujours à comprendre le plan de Dieu. La vie communautaire, c'est une bénédiction. Ce sont des moyens que Dieu a donnés. La parole de Dieu déclare d'une manière solennelle, frère, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a fait pour vous, qui a fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption. Ça vient de Dieu. Christ nous a justifiés et sanctifiés. Justifiés et sanctifiés, ils sont toujours passifs quand ils désignent les croyants lors de la nouvelle naissance. Nous sommes assis avec Jésus-Christ dans le ciel. Donc la sanctification au quotidien, ce que je disais, la consécration, c'est un changement de pensée. Oui, là, nous avons un rôle à jouer. Et cette transformation ne s'opère en nous, cette transformation qui s'opère en nous est bien plus qu'une discipline personnelle. C'est un changement de l'intérieur et de l'extérieur, bien entendu. Et dans cette sanctification, dans cette consécration, nous sommes actifs et obéissants à la parole de Dieu. Mais c'est le Seigneur qui génère la puissance et la grâce qui opère cette transformation. Nous avons besoin de nous appuyer sur le Seigneur pour qu'il opère cette sanctification. par nos propres forces. C'est vrai que l'apôtre Paul déclarera, c'est pour cela que je me donne de la peine en combattant par son action, sa force, qui avec puissance, est à l'œuvre en moi. Et oui, il dit bien, je combattais, je combats. C'est vraiment, le verbe était même jusqu'à l'agonie. Il dit, je combats, je lutte. Par sa force. Pas avec sa puissance. Il combattait, mais c'est pas sa puissance. Pas son amour. Il agit en nous. Donc ce processus de consécration se fait par la puissance de l'œuvre de la vie de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur, pour que nous tenions bon. Appuyons-nous, frères et sœurs, sur l'action du Saint-Esprit et l'œuvre de Jésus-Christ qui continue à agir en nous par son amour dans notre marche quotidienne. Appuyons-nous toujours sur le Seigneur pour notre vie de consécration. La Bible nous dit ici, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ. D'ici au verset 8 dans Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes, par la grâce en effet que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier, car nous sommes son ouvrage créé, nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Jésus-Christ. Dieu, ici au troisième point, marcher dans son amour, marcher dans l'amour divin. L'apôtre nous rappelle ici que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes son produit, mais on dirait même, nous sommes le résultat de son œuvre. Cette œuvre faite avec amour. Paul ne parle pas de nos œuvres. La rédemption est l'œuvre de Dieu. Il nous a ressuscité avec Christ pour nous faire asseoir dans les lieux célestes en lui. Nous sommes son ouvrage. Créant Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les appliquions. Afin que nous marchions dedans. Version Nouvelle Bible, seconde parle maintenant. Nous adonnions, s'adonner, marcher. Mais nous sommes son œuvre. Le même verbe, l'apôtre Paul utilise au verset, que ce soit au verset 2 ou au verset 10. Nous marchions parce que nous étions morts spirituellement. Nous marchions dans les ténèbres. Maintenant, nous sommes vivants spirituellement. Comment je peux traduire cela? Verset 10. Il nous dit, ayant été créés dans le Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles, nous adonnions à elles. Donc c'est vraiment un aspect encourageant ici. Un aspect qui nous libère dans notre marche chrétienne. C'est que Dieu a déjà prévu les œuvres bonnes que nous les pratiquions, que nous marchions déjà dedans. Pas nos bonnes œuvres, mais les œuvres que Dieu a préparées. Celui-ci, il nous a sauvés par grâce, par son grand amour. Il nous donne aussi les moyens pour que nous marchions dans son amour. C'est la question qui est souvent la plus difficile pour nous. Dieu a-t-il planifié les œuvres que nous devions faire? Et c'est là où, dans notre marche, dans la consécration, nous avons des problèmes. Parce que c'est là où nous agissons souvent comme les enfants. Vous savez, les enfants, le samedi matin, ils ont été à l'école toute la semaine. Ils avaient des choses, on se lève, on fait la toilette, on va à l'école. Mais le samedi matin, souvent, on les laisse. Et comme ils ne savent quoi faire, malheureusement, il arrive qu'ils fassent des bêtises. Et nous agissons, des fois, imaginez un jeune couple avec un jeune enfant. Le mari se lève le matin, il dit, chérie, j'ai sorti la poubelle, j'ai donné le biberon au petit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu ne m'accuseras pas de ne pas t'aimer. ça paraîtra bizarre quand même. Non, Dieu a préparé les œuvres, a préparé tout d'avance pour que nous marchions simplement dedans. Nous le dit ici dans Matthieu au chapitre 5, je vais lire. Matthieu chapitre 5, verset 14, qui dit ceci. Matthieu chapitre 5, verset 14. Dieu a préparé. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'ils voient vos œuvres et glorifient le Père qui est dans les cieux. Marcher dans son amour, c'est tout faire pour la gloire de Dieu. Nous devons dire gloire à Dieu en toutes choses. Gloire à Dieu en toutes circonstances. Le but ultime de tout ce qui existe, frères et sœurs, c'est de glorifier Dieu. Le premier commandement qu'il donne à son peuple, il dit « Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Je suis Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » C'est ce que le prophète Osée ici dira aux enfants d'Israël qui les reprochaient, qui suivaient d'autres dieux. Oui, Dieu est jaloux de sa gloire. Devons nous poser la question, c'est pas ce que je dois faire, je vais faire. Ce que je fais, est-ce que ce que je fais glorifie Dieu? Est-ce que Dieu occupe la première place dans ma vie, dans mes décisions? Oui, frères et sœurs, Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour sa gloire. Donc que ce soit notre salut, notre marche dans la consécration, tout ceci est fait pour glorifier le nom du Seigneur. Glorifier le nom du Seigneur. Ce que dira l'apôtre Paul, soit que vous mangez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. On peut citer des œuvres, voilà ce que je fais. Non, faites tout pour la gloire de Dieu, marchez dans l'amour divin. Ce que nous avons reçu, il dit marchez dedans. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Marcher dans l'amour divin, c'est chercher à faire sa volonté en toutes circonstances. Mettre Dieu à la première place, même dans nos cultes, dans la vie quotidienne, c'est que des fois, dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, dans beaucoup de cultes, on va faire des choses pour attirer du monde, pour plaire aux gens, pour que les gens se sentent bien à l'église. C'est vrai, c'est merveilleux que les gens se sentent bien à l'église, dans la maison du Seigneur. Mais la première chose, c'est toujours, est-ce que le culte glorifie le Seigneur? Le reste, ça peut être théâtral. Est-ce que le culte, est-ce que ma vie, est-ce que mes décisions glorifient le Seigneur? Marcher dans l'amour divin, c'est aussi se préoccuper aussi de l'autre, de l'état de l'autre. Manifester son amour envers les enfants de Dieu. Si nous avons reçu l'amour de Dieu, nous devons toujours être prêts aussi à la donner aux autres, à la manifester aux autres. Nous avons cherché à vivre selon les commandements de Dieu. Oui. Disons un disciple qui est venu, peut-être avec une certaine arrogance, si on lit dans le ton, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Peut-être qu'il avait déjà fait 9, mais il n'était pas satisfait. Et il voulait faire quelque chose de plus. Il dit, Seigneur, quel est le plus grand commandement de la loi? Le Seigneur lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement. C'est là le grand commandement, c'est le premier commandement. Mettre Dieu à la première place. Il dit, un second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Aimer Dieu, aimer les hommes. Oui, marcher dans l'amour divin, c'est être conscient que tout dépend des actions, tout dépend de Dieu. Aimer Dieu, que toutes nos actions, je me répète, que toutes nos actions glorifient notre Seigneur et soutiennent le frère ou la sœur en Christ. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous passerons l'éternité ensemble auprès de notre Père céleste. Comprenez, quand l'apôtre Jean avait vu ça, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Son amour reste pérenne, ne change pas. Nous sommes enfants de Dieu. Soyons conscients de la pérennité de l'amour divin. Oui, malgré les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, malgré les conséquences de nos actes, malgré les conséquences même souvent de nos échecs, c'est une réalité dans ce monde. Oui, des fois nous montons, mais après des fois. Malgré la dureté souvent de notre cœur, des fois des colères incontrôlées qui font du mal à l'autre. Notre Dieu continue à nous aimer. Comme d'ici, vous lisez dans Romains chapitre 8, montre que le Saint-Esprit intercède pour nous, pour que nous tenions ferme. Jésus-Christ, mort, ressuscité, assis aujourd'hui auprès du Père, mais pourquoi? Pour intercéder pour nous. Pour que nous devenions ferme. Il montre toujours ses mains. Verser mon sang pour eux. Oui, frères et sœurs, je termine par ces deux beaux versets sur lesquels j'aimerais que nous méditions ensemble dans Romains chapitre 8, que vous connaissez très bien. Mais c'est bien que nous les relisions ensemble. Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni vie, ni la vie, ni les anges, ni principaux et principales, ni présents, c'est des choses présentes, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dit ni la création. C'est-à-dire ici, le mot séparé ne peut nous arracher. Ce n'est pas une créature, ce n'est pas une création qui peut nous arracher de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Soyons conscients de la pérennité de l'amour de Dieu dans nos vies. Oui, mais je termine en disant, prendre conscience, c'est se laisser, c'est prendre une décision de nous laisser guider par cet amour. Quelles que soient les circonstances, que cet amour ait vraiment une répercussion positive dans ma vie de tous les jours. Méditons ensemble encore ces versets, vraiment Romains chapitre 8, qui seront affichés, 8 versets 37 à 39. Méditons pendant ce temps. Nous disons aussi, j'en profite pour dire au revoir à nos frères et sœurs qui nous suivent par Internet.